Si vous aimez la littérature, ne quittez pas l'écoute.
Archives RTF, 14 janvier 1959.
Il est vrai que ces mémoires d'une jeune fille rangée vont déranger certains. Et d'abord parce que ces mémoires sont très objectives.
Quand paraissent ces mémoires, Simone de Beauvoir vient d'avoir 51 ans.
Madame de Beauvoir ne se penche pas sur sa jeunesse avec l'attendrissement de beaucoup d'écrivains. Ce sera plutôt avec un œil clinique qu'elle regardera les 20 premières années de sa vie.
C'est donc au scalpel que Simone de Beauvoir dissèque sa jeunesse. Elle a écrit ses mémoires à la première personne du singulier. Et ce « jeu » va toucher au cœur des millions de Françaises.
J'ai envie que les gens me connaissent. Parce que parmi les gens qui me lisent en particulier, il y en a beaucoup qui se trompent tout à fait sur mon compte. Et parmi les gens qui ne m'ont pas lu mais qui ont entendu parler de moi, il y en a également beaucoup qui se trompent sur mon compte.
Ayez en tête qu'à la fin des années 50, Simone de Beauvoir est perçue comme une intellectuelle exigeante.
Simone de Beauvoir, qui est-ce ?
Auteur d'un essai puissant et complexe.
Une femme écrire un si gros livre ?
Le deuxième sexe est un livre de philosophie difficile d'accès. Mais avec les mémoires d'une jeune fille rangée, c'est autre chose. Son écriture devient soudain très accessible et à l'aube des années 60, un public très nombreux va se projeter dans ce récit. Des millions de lecteurs et de lectrices s'identifient à Simone de Beauvoir. La jeune fille rangée raconte son émancipation et les Françaises vont se l'approprier.
Ça dure depuis mes 14 ans que je fais la boniche. Et je vois rien qui fait qu'un jour ça va changer.
Comme la plupart des femmes.
Je m'en fous de la plupart! Moi je veux plus!
C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
J'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Sixième épisode, la deuxième vague.
Je m'efface donc maintenant pour donner la parole à Simone de Beauvoir.
J'ai commencé à vouloir vraiment écrire vers 15 ans. Je voulais écrire pour retenir quelque chose de la vie. Mais c'était primordial chez moi, vivre.
Mais pourtant, vous avez eu une éducation très bourgeoise.
C'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie. Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes.
Comme le Capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier, aujourd'hui, se réfèrent au deuxième sexe.
L'histoire débute le 6 octobre 1958. Ce jour-là, les éditions Gallimard publient « Mémoire d'une jeune fille rangée », un titre qui fait écho à un livre du romancier Tristan Bernard, « Mémoire d'un jeune homme rangé », publié en 1899. À peine sorti en librairie, ce nouveau récit de Simone de Beauvoir connaît un immense succès. Et 3 mois plus tard, à la radio, voilà ce qu'en disait le poète et critique Max-Paul Fouché.
Quelles sont les qualités littéraires de ce livre ? Un document, bien entendu. Un document sur une époque, sur une société. Un document aussi d'histoire de la littérature contemporaine. Mais pas seulement cela. On sent que Simone de Beauvoir a voulu nous donner une leçon. Une leçon cachée, camouflée en mémoire. En effet, c'est l'histoire d'une libération. Une jeune fille de la bourgeoisie s'évade de la bourgeoisie, s'évade d'un ordre dont elle ne veut pas, pour trouver son ordre à elle. C'est sa libération.
Le récit de cette émancipation touche un point sensible dans la société française. Et en quelques semaines, Beauvoir reçoit des milliers de lettres. L'historienne Marine Rouche s'est plongée dans ce corpus épistolaire du début des années 60.
Et ce qu'on remarque à ce moment-là, c'est une augmentation nette des lettres de femmes. C'est-à-dire que les femmes deviennent majoritaires dans le courrier de Simone de Beauvoir. Et ça, c'est intéressant parce que ça sous-entend une identification, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas une appropriation de Simone de Beauvoir, donc de sa figure, mais aussi de son œuvre par une partie des femmes de sa génération.
J'ai reçu énormément de lettres de femmes. Il y a des quantités de femmes qui se sont confiées à moi.
Simone de Beauvoir, 1975.
Plus ou moins longuement, mais enfin souvent avec pas mal de détails et même des correspondances qui se sont suivies.
Dans ce flot de lettres adressées à Simone de Beauvoir, peut-on dégager des thèmes récurrents ?
Alors oui, alors déjà dans cette période, il y a beaucoup de femmes qui écrivent parce qu'elles se sentent extrêmement isolées, surtout au sein de leur famille. Beaucoup disent qu'elles portent à bout de bras leurs maris, leurs enfants. Elles ont en plus souvent un travail salarié, surtout à partir des années 60, hein, puisque c'est dans les années 60 que le taux d'activité salariée des femmes augmente. Et donc, elles vont devoir, en quelque sorte, tout conjuguer. Et par ailleurs, elles sont aussi confrontées à des injonctions contradictoires, notamment par la publicité, les magazines féminins, c'est-à-dire qu'elles doivent vraiment assurer sur tous les plans.
Aujourd'hui, un sujet qui nous tient tous à cœur, notre métier, celui de femme, tel que le voit Rita Cross, auteure d'un ouvrage dont nous avons déjà parlé, Les Nanas.
Le métier de femme, c'est de ne pas accabler son mari dès qu'il rentre chez lui. C'est de l'écouter, d'écouter tous ses problèmes, d'être toujours agréable.
Et c'est ce malaise dans la vie des femmes qui les mène à écrire à Simone de Beauvoir, entre autres.
Vous travaillez comment ? Vous travaillez toute la journée ?
Non, on travaille par équipe.
Qu'est-ce que c'est que le travail en équipe ?
Le travail en équipe, c'est une semaine sur deux, on est du matin, l'autre semaine, on est du soir.
Archives RTF, reportage à l'usine, 1962.
On est beaucoup plus fatiguées. Certaines femmes font deux journées dans une. C'est quand elles rentrent dans leur boulot, bon ben, elles ont les enfants à s'occuper, faut faire le ménage, faut faire à manger.
Et vous aussi, quand vous sortez de votre travail, vous avez du travail à la maison.
Oui, pareil.
Vous avez l'impression que le travail des femmes est beaucoup plus dur que pour les hommes.
Oui.
Parce que les hommes n'ont que leur travail à l'usine.
Ils ont que leur travail à faire, ils n'ont rien à faire en rentrant.
Cette jeune ouvrière n'a peut-être pas lu les mémoires d'une jeune fille rangée. Car disons que les lectrices qui ont écrit à Simone de Beauvoir semblent appartenir à la classe moyenne.
Je pense à une lettre de femme qui m'a beaucoup touchée. Elle se présente et puis elle dit « Voilà, je suis la française moyenne type ». Et la française moyenne type, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, en fait, dans ces années-là, au tournant des années 60, au moment où la période dite des 30 glorieuses est à son apogée. Et la française moyenne type, en effet, c'est le public cible, c'est la femme type qui est visée par la culture de masse. Alors ça, c'est intéressant parce que, justement, cette française moyenne type, elle appartient à la nouvelle classe moyenne qui, au cours de cette période dite des Trente Glorieuses, s'organise sur le modèle de la bourgeoisie traditionnelle. Et donc, on retrouve ces femmes-là en majorité. Donc, ces femmes-là, elles ont entre 30 et 40 ans environ, hein. Elles sont mariées, elles ont des enfants, elles sont hétérosexuelles, elles sont blanches. Donc voilà, c'est celle qu'on retrouve dans le courrier. Et c'est ce qui a aussi mené au lieu commun, en fait, qui voudrait que Simone de Beauvoir a produit une œuvre bourgeoise et donc n'a été lue et appropriée que par des personnes issues de ces classes-là, de ces classes bourgeoises. Et Beauvoir elle-même est consciente de cela. Elle qui critique la bourgeoisie, elle qui critique son milieu d'origine, elle se désole notamment dans sa mémoire de sa difficulté à atteindre les classes un peu plus populaires. Ceci dit, je voudrais quand même nuancer un petit peu. Beauvoir n'est pas forcément lu ou approprié que par des femmes qui sont issues de ces milieux-là privilégiés, parce qu'il faut vraiment souligner la présence dans le courrier de lettres de femmes dont les expériences sont minoritaires, ou plutôt minorisées, par les logiques de masse. Mais en fait, elles sont là, et elles partagent leurs expériences d'ouvrières, de lesbiennes, de divorcées, de femmes racisées. Et ces lectrices, c'est vraiment ce qu'elles expriment. C'est-à-dire qu'écrire à Beauvoir, lui faire part de problèmes intimes, s'approprier son œuvre, ça montre un vrai processus de découverte ou d'apprentissage de la liberté. Il y a une vraie ouverture sur la voie de l'émancipation. Et c'est ce que Simone de Beauvoir a tenté de faire en installant ses correspondances, en alimentant ses correspondances et ses rencontres avec ses lectrices.
Jean-Paul Sartre sur Simone de Beauvoir, dans le magazine Vogue 1965. Ce qu'elle a gagné, c'est une communication immédiate avec le public. Mettons, si vous voulez, une différence entre elle et moi. Je ne communique pas émotionnellement. Je communique avec des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui sont libres vis-à-vis de moi, qui pensent « c'est bien » ou « ce n'est pas bien ». Mais Simone de Beauvoir, elle, communique affectivement tout de suite. Les gens sont toujours engagés vis-à-vis d'elle par ce qu'elle dit. Il y a chez elle une manière de mettre en question l'autre personne tout de suite, mais en amitié.
Pour moi, ces lettres, elles ont permis à Simone de Beauvoir de devenir féministe. C'est-à-dire que quand elle écrit Le deuxième sexe en 1949, elle se dit assez timidement féministe, ou disons que son féminisme a une conception qui n'est pas du tout la même que celle qu'elle va afficher dans les années 70. Donc elle est féministe, mais elle n'est pas, par exemple, pour un groupement de femmes. Elle pense qu'une société socialiste résoudra le problème. Et puis, les années passent, les correspondances se multiplient, ces échanges, elle leur pose des questions, ces correspondantes, elle essaie de comprendre leur vie, de comprendre leur choix de vie. Et finalement, elle alimente son travail littéraire. Et là, il y a une œuvre qui est très intéressante de ce point de vue-là, qui permet de démontrer le retour d'influence de ces contacts-là sur sa trajectoire, qu'elle soit littéraire, féministe ou politique, c'est « La femme rompue ». La femme rompue qui paraît en 1968 et qui est un ouvrage, en fait, qui est un recueil de nouvelles. Et là, ce qu'on y lit, c'est vraiment assez frappant parce qu'on a l'impression de lire des lettres de femmes. Et Simone de Beauvoir, d'ailleurs, ne s'est pas cachée qu'elle s'est inspirée des lettres qu'elle a reçues pour écrire La femme rompue. Et donc, oui, je pense que Simone de Beauvoir est devenue féministe, ou en tout cas a nourri ou a radicalisé son féminisme au contact de ces lettres-là.
Lettre de lectrice, 1963. Comme c'est triste tout ce que vous écrivez dans La force des choses. Je n'étais donc pas anormale. La vie, c'était donc bien ça. Cette chose informe, gluante, insaisissable. Vous aviez Sartre, quelques amis, des voyages, des amours, du temps pour écrire. Moi, je n'avais que des enfants, de la lessive, de la vaisselle et toutes ces choses tristes. Je ne les ai jamais partagées.
Simone de Beauvoir a rédigé ce récit autobiographique à la première personne du singulier, donc de manière très classique, mais avec des conséquences inattendues.
Quand elle publie ses mémoires, elle, à son tour, dit « je ».
Marine Rouch.
Et c'est comme ça que j'analyse ou que j'explique la vague de lettres de femmes à ce moment-là, en 1958. C'est que Simone de Beauvoir a dit « je », a montré que c'était possible, et des centaines, voire des milliers de femmes répondent à leur tour et s'expriment à leur tour. Elles se confient, elles parlent de leur vie, et elles veulent même se faire entendre, elles veulent écrire. Beaucoup de femmes témoignent d'une impossibilité à se faire entendre dans leur quotidien, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel, amical, etc. Et donc ces lettres-là sont un moyen de déployer le jeu, de dire en fait ce qui manque à leur vie quotidienne et ce qu'elles voudraient pouvoir y changer. Et Simone de Beauvoir les aide, elle les accompagne dans cette quête existentielle en quelque sorte, qui est celle de trouver sa propre voix et de pouvoir ensuite l'exprimer sur une place un peu plus publique.
Autre question sur ces lettres adressées à Beauvoir, en quoi ce corpus épistolaire est-il précieux d'un point de vue historique ?
Il permet de revisiter la période dite des Trente Glorieuses par le bas et même depuis l'intérieur. Quand je dis depuis l'intérieur, ça veut dire que ces lettres-là, elles nous permettent, nous, historiens, historiennes, de pénétrer dans les émotions, dans les ressentis, dans les sentiments aussi, en fait, dans l'intimité des individus ordinaires. C'est-à-dire qu'on a souvent dit que la période des Trente Glorieuses était celle de la toute-puissance réalisatrice des individus. Mais depuis quelques années, il y a de nombreux travaux qui viennent nuancer cela. Et le fond des lettres reçues, il permet aussi de nuancer cette période-là, parce qu'on y trouve beaucoup de désespoir aussi. Ce sont des lettres extrêmement émouvantes, et ce sont pour beaucoup des appels au secours. Donc on est dans une négation, ou en tout cas dans une remise en question de du bonheur à tout prix, des fameuses 30 glorieuses.
Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. En l'an 2000, vous pourrez, madame, recevoir, sans être obligée d'ouvrir sa porte, les livraisons des fournisseurs directement dans ce réfrigérateur rotatif qui peut contenir 6 mois d'approvisionnement.
Oui, pour laver 4 kilos de linge avec seulement 12 litres d'eau chaude, il vous faut bien entendu une machine à laver automatique Philips.
Automatique Philips, car elle vous libère complètement.
Et au point de vue salaire, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez avoir des augmentations de salaire?
Oui, on arrive de temps en temps à en avoir.
Mais comment ça se passe alors?
Il faut qu'il y ait une grève générale. Généralement, il y en a beaucoup qui le font pas parce qu'on n'est pas assez unis pour pouvoir la faire.
Vous avez déjà fait grève, vous?
Non.
Jamais. Et comment vous avez été augmenté alors?
On a été augmenté par la dernière grève, là, qu'il a fallu qu'on arrête tous les ateliers, vu qu'il n'y avait pas d'électricité pour pouvoir faire marcher les machines.
C'est parce que l'EDF a fait grève?
Oui.
Et en même temps, vous avez augmenté à ce moment-là, sans que vous preniez la décision vous-même?
Non.
Ces lettres nous font donc entendre un autre point de vue sur ces merveilleuses années 60. On s'aperçoit en effet que les femmes sont souvent en position de fragilité, aussi bien dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Et par ailleurs, dans ces lettres, les femmes semblent très isolées, chacune dans leur coin, et leur malaise n'est défendu par aucun mouvement collectif ou par des modèles forts. Et pour cause, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, le combat féministe végète.
Nous sommes dans le creux de la vague parce que les associations suffragistes et féministes qui ont longtemps lutté pour le droit de vote et d'autres droits s'essoufflent, vieillissent. Il n'y a pas de renouvellement générationnel. La moyenne d'âge des militantes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 70 ans.
L'historienne Sylvie Chaperon.
Parce que c'est une génération, effectivement, qui ne s'est pas renouvelée. Et du coup, les associations se recroquevillent, deviennent de moins en moins importantes, rayonnent de moins en moins. Et inversement, l'autre vague qui va suivre, elle n'apparaît pas encore. Elle va apparaître dans les années 50 avec de nouvelles associations, dont celle de la maternité heureuse et du planning familial. Et c'est au fur et à mesure des années 60 que vont se fonder de plus en plus d'associations, et puis jusqu'à les l'éclosion du mouvement de libération des femmes en 1970.
Bonsoir. C'est probablement la première fois que vous voyez Simone de Beauvoir. Comme Jean-Paul Sartre, le compagnon de sa vie, elle refusait, jusqu'à cette année, de paraître à la télévision.
En 1975, le journaliste Jean-Louis Servan-Schreiber reçoit dans son émission Questionnaire celle qui est alors devenue l'icône du féminisme de la deuxième vague.
C'est donc par ses œuvres, romans comme Les Mandarins pris Goncourt 1954 ou Souvenirs comme Les Mémoires d'une jeune fille rangée, que le public connaît celle qui compte parmi les grands écrivains actuels. Mais c'est par un essai, Le Deuxième Sexe, publié il y a plus de 25 ans, que Simone de Beauvoir a joué un rôle historique dans l'évolution des idées de notre époque. Ces deux épais volumes, difficiles, décrivaient et expliquaient, pour la première fois, la place secondaire qu'occupent les femmes dans l'humanité. Comme Le Capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier, aujourd'hui, se réfèrent au deuxième sexe.
Essayons de résumer. La première vague du féminisme en France s'est battue pour les droits politiques.
Qu'ont-elles à voir avec la politique? Ne ferait-elle pas mieux de s'occuper de leur mari ou de leurs enfants?
La question prioritaire était celle du droit de vote.
Mais comment votent-elles? En connaissance de cause ou selon les opinions de leur entourage?
Une lutte qui trouve sa source à la fin du 19e siècle, au moment où s'enracine la République.
Leur place est-elle au Parlement, alors que tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle?
Et c'est aussi à cette période qu'apparaît le mot féminisme.
Elles se disent brimées par une législation faite par les hommes. Mais n'est-ce pas abusé?
Ce mot féminisme, il a été inventé dans un sens politique en 1872 par Alexandre Dumas fils dans un pamphlet qui s'appelle L'homme-femme.
Christine Barr, historienne.
Il emploie ce substantif au pluriel, au masculin pluriel, les féministes, qu'il considère comme des gens un peu fous puisqu'ils proclament l'égalité des sexes. Ils croient à l'égalité des sexes. Or, dit Alexandre Dumas fils, les sexes sont différents. Nier la différence est une pure folie. Alors bien sûr, cette différence, elle est hiérarchisée et c'est bien là qu'est tout le problème.
Donc, sous la plume d'Alexandre Dumas fils, le féminisme est perçu comme une pathologie, soutenue à l'époque par une thèse en médecine.
Un an avant L'homme-femme d'Alexandre Dumas fils, une thèse a été soutenue à la faculté de médecine de Paris, qui s'appelle « Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux ». Pour un certain type de tuberculose, on observe qu'il y a une féminisation physique des sujets masculins, donc une pathologie biologique.
Cette thèse de 1871 met en avant que chez certains hommes tuberculeux, on assiste à une perte de la pilosité, à une mue de la voix vers les aigus et à une réduction de la masse musculaire. Autrement dit, une féminisation du masculin. C'est ce que la thèse de médecine en question appelle le féminisme, c'est-à-dire une pathologie biologique. Au départ, ce terme était donc très péjoratif, et il faudra du temps pour que les pionnières du féminisme se le réapproprient pour incarner la lutte pour l'égalité des sexes.
Savez-vous l'une et l'autre qui est jeune, toute jeune, que il n'y a pas tellement longtemps que les femmes ont le droit de vote.
Durant la première moitié du XXe siècle, la première vague du féminisme a mené à bien son combat. Et en 1944, les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Arrive ensuite la deuxième vague. Nous sommes au tout début des années 1960 et parallèlement au succès des mémoires d'une jeune fille rangée, apparaît en France une association.
Qu'est-ce que le planning familial et où a-t-il commencé ?
Le planning familial, dans un premier temps baptisé la maternité heureuse, a d'abord pour ambition l'éducation sexuelle et le contrôle des naissances pour éviter les avortements clandestins. On dit planning car l'idée, c'est de planifier les naissances dans la vie d'un couple. Et le premier centre ouvre à Grenoble en 1961.
Le premier centre français de planning familial, dit aussi de maternité heureuse, s'est ouvert à Grenoble en présence de nombreux médecins et personnalités françaises et internationales. Cet établissement est destiné avant tout à l'information des couples et surtout des femmes, préoccupées pour des raisons de santé, de régulariser et non pas de limiter les naissances, a déclaré le professeur Pascal, président de la section grenobloise de ce mouvement.
En général, les gens qui viennent nous voir commencent par nous dire « Docteur, on ne veut plus d'enfants ». Souvent, c'est des gens qui ont déjà un, deux, quelquefois souvent trois enfants et qui ne veulent plus d'enfants. C'est-à-dire, c'est malheureux de les voir à ce moment-là.
En fait, donc, vous voudriez dire par là, docteur, que les gens viennent vous voir trop tard, c'est-à-dire en ayant eu déjà trop d'enfants trop rapidement.
Oui, alors justement, à ce moment-là, si vous voulez, ça n'est plus du planning que nous faisons, c'est vraiment de la contraception absolue. Les gens ne veulent plus d'enfants, alors que l'idéal, ce serait qu'ils puissent avoir les enfants qu'ils désirent au moment où ils le désirent.
Avec l'arrivée du planning familial, se dessine une partie des revendications de la deuxième vague féministe, le droit de disposer de son corps. Néanmoins, il reste du chemin à faire.
pays, parce que il y a un argument. Bon, déjà, il y a une évolution des mentalités. C'est l'accès à la contraception est déjà possible dans plusieurs pays. La France n'est pas en pointe, hein, donc il y a cette situation. C'est la modernité. Les femmes aspirent à accéder à la contraception. Donc il y a une satisfaction. Enfin, sauf dans une frange hostile pour des raisons morales et religieuses à la contraception. Voilà, donc c'est un bon accueil. Et il y a un argument qui a séduit une partie de l'opinion conservatrice, c'est la prévention de l'avortement.
Oui, surtout la lutte contre l'avortement avant tout, hein, parce qu'il faut quand même bien se dire qu'en France, c'est évidemment très controversé comme statistique, mais on estime qu'il y a à peu près autant d'avortements par an qu'il y a de naissances. Il y en a qui disent qu'il y en a beaucoup moins, mais mettons même qu'il y en aurait la moitié. Si vous comptez qu'il y a 600 000 naissances par an en France, ça fait quand même 300 000 avortements. Alors avec tous les risques que cela comporte pour la vie de la mère, surtout sur le plan psychologique, parce que ça abîme quand même la vie d'une femme, il est évident que notre rôle au planning familial est très important si on peut, par notre action, diminuer ce nombre des avortements.
Avec le planning familial et la loi Neuwirth de 1967, on aspire à contrôler les naissances. Mais les femmes n'ont toujours pas le droit d'avorter. Par ailleurs, sachez que la première vague féministe n'était pas allée au bout de l'égalité civile entre les hommes et les femmes.
Un débat à l'Assemblée nationale qui intéressera toutes les femmes, les députés se penchent aujourd'hui sur le projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux.
Cette réforme est le fruit de patients travaux. Depuis 1925 environ, les juristes ont travaillé à son élaboration, 40 ans d'efforts pour réaliser en 1965 la promotion de la femme mariée.
Et la loi change enfin en 1965.
Alors, c'est la réforme du 13 juillet 1965, réformant les régimes matrimoniaux, qui révise le code civil napoléonien 1804, qui avait mis les femmes mariées sous tutelle. Donc, malgré une réforme en 1938 très difficilement obtenue, parce que les catholiques étaient contre, en fait, hein, ils estimaient que l'homme devait rester le chef du foyer. Et en 1965, donc, différents droits civils sont donnés aux femmes.
Madame, vous pourrez légalement vous faire ouvrir un compte de chèque ou de titre en votre nom personnel et garder la libre disposition de tous vos dépôts.
Ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari, travailler sans l'autorisation du mari. Alors, l'autorisation n'était pas toujours demandée dans le passé, mais...
C'était la loi.
Voilà, c'était la loi. C'était la loi qui pouvait toujours être opposée à la liberté des femmes.
Ce qui veut dire que si Simone de Beauvoir avait épousé Jean-Paul Sartre dans les années 30, aux yeux de la loi, elle aurait dû lui demander l'autorisation pour ouvrir un compte en banque.
Oui, et pour travailler en cas de demande de l'employeur.
La réforme proposée est encore timide. Il s'agit bien là quand même d'une importante mesure de progrès social. Elle va contribuer à l'émancipation de la femme et à la cohésion de la famille.
Ayez bien conscience que pour ouvrir un compte en banque, une femme mariée devait demander l'autorisation à son mari jusqu'en 1965. Le refus systématique du mariage chez Simone de Beauvoir s'explique aussi à la lumière de ces interdictions patriarcales du code napoléonien. D'ailleurs, c'est au pied d'un monument commandé par Napoléon que va se former la deuxième vague du féminisme. Nous sommes sous l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile à Paris, le 26 août 1970.
Plus inattendu, la petite manifestation organisée à Paris par le mouvement de libération de la femme française.
Oui, à l'Arc de Triomphe, un groupe de femmes dont l'écrivain Christiane Rochefort, auteur du Repos du guerrier, a voulu déposer une gerbe de fleurs en hommage à la femme du soldat inconnu. Nous voulons, disaient les militantes, nous solidariser avec les plus inconnues, les plus obscures, les plus humiliées des femmes. La police a dispersé les manifestations et emmené plusieurs militantes au poste pour vérification d'identité.
Alors, elle manifeste en soutien des féministes aux États-Unis qui manifestent pour les 50 ans de l'obtention du droit de vote des femmes aux États-Unis. Donc il y a cette dimension internationale. C'est un acte symbolique. Un homme sur deux est une femme, c'est dit une des banderoles. Il n'y a pas une revendication précise, mais c'est ce que très vite on va retenir comme l'acte de création du mouvement de libération des femmes. Alors au début, un petit peu d'hésitation de la femme française, comme aux États-Unis ou comme dans d'autres pays. Donc on retient cet événement comme l'acte de naissance, en fait, du mouvement de libération des femmes. Mais on aurait pu en choisir d'autres, mais ils sont moins spectaculaires. Là, il y a une dimension symbolique qui est quand même très intéressante. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. C'était bien trouvé. Il y a de l'humour. Voilà, il y a de l'humour, de la provocation. Les jeunes féministes qui sont là sont tout de suite arrêtées. C'est un petit happening. Mais ensuite, il va provoquer des commentaires sur, voilà, le MLF désormais existe en France. Donc, libération des femmes. Ça, c'est intéressant, ce terme libération, parce que les féministes des décennies précédentes parlaient plutôt d'émancipation. Et là, il y a une ambition plus vaste et qui ne se laisse pas résumer en quelques revendications.
Quelle est l'ambition en 70 de ce MLF naissant, Christine Barr?
Que les femmes prennent la parole, existent dans la société, conquièrent leur autonomie, leur liberté, l'égalité, mais ça va au-delà de l'égalité des droits. L'enjeu n'est plus seulement juridique, même si il faudra des lois pour changer quand même un certain nombre de choses, l'accès à l'avortement ou la pénalisation du viol.
Quel profil sociologique on croise dans ce MLF? C'est important de le rappeler et de préciser les choses, Christine Barr.
Alors, il y a l'âge. Toutes n'ont pas 20 ans, mais la plupart ont fait mes 68 et sont des étudiantes, donc classe moyenne et supérieure plutôt, intellectuelles, créatrices, écrivaines, beaucoup d'écrivaines, beaucoup de lesbiennes. Même si c'est pas encore évident de le dire de cette manière-là et d'employer le mot lesbienne. Voilà, des jeunes femmes ayant un style de vie libre, pas spécialement privilégié, mais privilégié dans la mesure où elles ont une activité intellectuelle. Elles ne viennent pas forcément de familles bourgeoises, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ayant fait des études pour la plupart.
La deuxième vague du féminisme prend vite de l'ampleur. Et au début des années 1970, quelles sont ces revendications?
C'est avortement et viol. Hein, c'est les deux grands sujets. Donc plus largement, le droit des femmes à disposer de leur corps. Dans un contexte de révolution sexuelle, donc on dit parfois que la révolution sexuelle a servi la domination masculine. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette formulation parce qu'il y a aussi une révolution sexuelle du côté des féministes et des discours, par exemple, antisexologiques. Et il y a l'invention d'une alternative sur la sexualité, les discours sur la sexualité, les pratiques sexuelles également. Donc là, il y a vraiment quelque chose de révolutionnaire qui se passe. Donc, tout ce qui est lié au corps, sexualité, éducation à la sexualité, autre représentation de la sexualité, non sexiste, sans rapport de domination. Donc, c'est une période où le système d'oppression des femmes, appelé patriarcat, est beaucoup plus frontalement dénoncé. Le MLF apparaît comme plus radical aussi dans la mesure où il s'en prend à cette dichotomie vie privée-vie publique en disant « mais le privé est politique, les avortements n'ont plus à être cachés, l'avortement devient un droit, doit devenir une liberté ». Donc il y a une libération de la parole aussi dans ces années-là qui est fantastique. Voilà, donc c'est réducteur en même temps de dire ça parce que on ne doit pas oublier d'autres champs de la lutte des féministes.
Plus visées que les autres par les conditions de la vie moderne, les femmes qui travaillent.
Dans le monde du travail, dans les syndicats. Mais là, c'est un petit peu comme si le MLF avait irradié et des comités de femmes se créaient dans les syndicats, dans les entreprises.
Les femmes ont compris cette année qu'elles doivent surtout compter sur elles-mêmes et se sentir solidaires dans l'action.
Même les grèves de femmes dans toutes ces entreprises textiles qui sont en train de fermer, par exemple, prennent une tournure féministe par capillarité. Donc il y a vraiment un moment particulier dans les années 70.
D'avril à juin, Les vendeuses des nouvelles galeries mènent une grève dure et exemplaire.
ORTF, 1973.
Les résultats sont minces, mais le retentissement considérable. Dans le Nord aussi, des ouvrières apprennent la revendication féminine.
Hymne du MLF, 1971.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout.
Revenons à Simone de Beauvoir. Le 31 janvier 1971, pour la première fois, elle accepte de rencontrer des membres du tout jeune MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Pour quelle raison ?
Parce qu'elle est extrêmement attirée par cette jeunesse radicale. Ça lui plaît beaucoup.
L'historienne Sylvie Chaperon.
Simone de Beauvoir n'avait pas milité auparavant, ni dans les associations anciennes type suffragistes, ni au planning familial. Alors elle avait fait des préfaces, elle avait fait des discours lors de congrès par exemple, mais elle ne s'était pas engagée dans le combat du planning familial autrement que par sa plume, par quelques discours et quelques écrits. Là, elle trouve en fait ses sœurs, alors elles sont beaucoup plus jeunes, hein, mais comme elles sont très radicales, comme elles sont très dans vouloir tout aujourd'hui, tout de suite, maintenant, elle se retrouve très attirée par ce mouvement.
Je crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste qu'on a appelé des 343 salopes, disant que nous avions avorté.
Simone de Beauvoir, 1978.
C'était une revendication des femmes pour l'avortement. Parce qu'on pensait que si nous disions que nous avions avorté, eh bien, on aurait dû nous arrêter. Mais comme, en fait, le gouvernement n'a pas osé nous arrêter, implicitement, il ferme les yeux sur la question.
Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur publie ce manifeste en couverture.
Alors, il s'agit d'un manifeste écrit par des femmes sur la question de l'avortement et signé par 343 femmes qui signent de leur propre nom alors même qu'elles avouent avoir commis un acte illégal. Donc le manifeste est très très court, hein, il dit « Il y a chaque année à peu près 1 million de femmes qui se font avorter, je déclare être l'une d'entre elles, je déclare avoir avorté. » Donc c'est vraiment, si on a fait quelque chose d'illégal, venez nous arrêter, mettez-nous en prison, appliquez la loi, moi je déclare que j'ai enfreint la loi. Donc c'est un manifeste choc, c'est ces actions choc qu'aime bien le MLF. Alors, dans la foulée d'ailleurs, se crée une association, Choisir, pour protéger, puisqu'on s'attend à des poursuites judiciaires, pour protéger les femmes qui ont pris la plume. Et donc, par stratégie, même si ça a été débattu à l'intérieur du mouvement, par stratégie, il y a à la fois des femmes célèbres, connues, qui sont un peu parapluies, parce qu'on n'osera pas s'attaquer à elles, comme Jeanne Moreau, comme Catherine Deneuve, comme Simone de Beauvoir, comme Clara Malraux, bon, etc. Et puis, il y a des militantes du MLF, des militantes de base, hein, qui sont inconnues et qui signent de leur propre nom. Ce sont elles qui prennent des risques, bien sûr.
La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés.
Gisèle Halimi, 1973.
Et les maîtresses des ministres, et tout le monde. Nous avons été les premières dans le manifeste des 343 à le dire. Il n'est plus possible que les femmes aujourd'hui, et je le dis en France, en 1973, soient réduites à ce rôle. Au rôle de réceptacle.
Quelle réaction suscite ce manifeste en France, Sylvie Chaperon ?
Ah, c'est un choc. C'est un choc. Il est reproduit dans tous les médias, on va dire, progressistes. Hein, Le Monde, immédiatement. Donc, il est reproduit un petit peu partout. Et puis, on en parle énormément. Ça fait prendre conscience tout de même de l'importance de ce fléau des avortements clandestins. Et puis, il est imité à l'étranger. Alice Schwarzer, qui est une militante de RFA qui vient régulièrement en France, va importer ce modèle du manifeste. Il va être imité aussi par des médecins qui déclarent avoir avorté. Et là, c'est leur carrière, y compris les sanctions du Conseil de l'Ordre, qui sont possibles. Parce qu'évidemment, un médecin qui pratique l'avortement, il est puni très lourdement.
En juin, Simone de Beauvoir devient présidente de l'association Choisir, fondée par l'avocate Gisèle Halimi. Et elle prend goût à la lutte pour la cause des femmes.
Elle milite, elle fait les manifestations, elle fait les meetings, elle prend la parole, elle signe le manifeste, elle tient une chronique de sexisme ordinaire dans les temps modernes et elle adore cette chronique. Elle fonde avec Anne Zelinsky une association, la Ligue du droit des femmes. Donc vraiment, elle est très active, mais en même temps, elle est très modeste. Elle est très humble. Elle ne prend pas la parole, elle ne veut pas être au-dessus des autres. Elle écoute d'ailleurs beaucoup cette génération.
Tout simplement, ce qu'on aurait voulu, c'est que les mecs comprennent que leur place n'était pas là. Dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
Donc c'est vraiment une très grande générosité, parce qu'elle donne son temps, et Dieu sait si Simone de Beauvoir comptait les minutes, elle donne son temps, elle donne ses compétences, sans jamais vouloir tirer la couverture à elle-même. Au contraire, elle est très heureuse que ce soit un mouvement collectif et horizontal.
Manifestation du 20 novembre 1971.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
Arrive alors l'année 1972 et le procès de Bobigny, qui est une étape très importante dans ce combat. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler quelle est cette affaire à Bobigny ?
Alors, c'est une jeune mineure au moment des faits, Marie-Claire Chevalier, qui a eu une liaison passagère avec un jeune homme. Qui l'a d'ailleurs, elle ne parle pas de viol, mais enfin de rapport sexuel forcé, et qui la dénonce quand elle pratique un avortement. Donc elle est dénoncée par son ex-petite amie qui a pratiqué sur elle quand même un abus. Et cette jeune femme s'est fait aider par sa mère, qui est une travailleuse à la RATP, donc tout à fait modeste, et qui a trouvé par des voies syndicales des avorteuses, comme on disait, hein, qui ont accepté de pratiquer l'avortement sur cette jeune fille. Donc elle est dénoncée par son petit ami, il y a donc un procès qui est monté contre elle, et elles ont connaissance par le manifeste hein, de cette action et de Gisèle Halimi, de l'association Choisir, et donc elles font appel à Gisèle Halimi pour la défendre.
Cet enfant, les femmes d'aujourd'hui sont-elles libres de le vouloir ou de le refuser ? La question est posée publiquement en octobre au procès de Bobigny. Marie-Claire, 17 ans, est jugée ce jour-là pour s'être fait avorter.
Et donc c'est l'association Choisir, avec Gisèle Halimi comme avocate, qui va défendre Claire Chevalier lors de ce procès. En fait, il y a deux procès. Il y a un procès à huis clos, puisqu'elle était mineure au moment des faits, puis il y a un procès public qui va être beaucoup plus médiatisé, qui est celui de la mère et des avorteuses.
Comment s'investit Simone de Beauvoir dans ce procès ?
Alors, Simone de Beauvoir et globalement l'association Choisir réfléchit à quelles sont les meilleures stratégies pour médiatiser cette affaire et pour, en quelque sorte, retourner le coupable. Le coupable, ça va être la loi 1923 qui interdise l'avortement et non pas Claire Chevalier qui a pratiqué l'avortement. Alors, il y a beaucoup de débats parce que ça se discute en AG. Hein, c'est pas dans un cabinet d'avocats feutré, c'est en AG que ça se discute. Et évidemment, il y a des militantes beaucoup plus radicales que d'autres. Faut-il faut-il faire venir à la barre des prix Nobel, des grands noms, des rabbins, des pasteurs, ou bien faut-il faire venir à la barre uniquement des militantes anonymes qui viennent raconter ce qu'elles ont vécu dans un rejet des star systems et des... Donc il y a beaucoup de débats, beaucoup de tensions, mais c'est effectivement la stratégie de faire venir à la barre des gens très très connus, dont Sartre et Simone de Beauvoir, hein, qui vont venir à la barre expliquer pourquoi en France l'avortement demeure un tabou et les responsabilités sanitaires désastreuses que cela occasionne. Alors, il y a des tensions, hein, très vite, entre Beauvoir et Gisèle Halimi, et entre le MLF et Gisèle Halimi, parce que Gisèle Halimi est quelqu'un d'un peu autoritaire, qui sait où elle veut aller, et voilà. Donc, Simone de Beauvoir démissionnera assez vite de la présidence de Choisir, mais elle a quand même donné toute sa voix, hein, et qui compte, lors du procès Bobigny.
Archives RTF, 11 octobre 1972.
Interactualité Magazine, Yves Mourouzi.
Bonjour. Dernière information de la matinée, Marie-Claire, la jeune fille qui était traduite ce matin devant le tribunal pour enfants de Bobigny, réunie à huis clos parce qu'elle s'était fait avorter en 1971, vient d'être relaxée, Germaine Bartoli.
Toute l'affaire est le drame d'une adolescente de 17 ans, intelligente et sage, qui un jour fait la connaissance d'un voyou brutal. On dira que c'est sous la menace que la jeune fille lui a cédé en août 1971. La lycéenne raconte à sa mère son aventure, qui ne veut pas que sa fille revive le calvaire qu'elle a connu. En effet, elle est elle-même mère célibataire et le père de ses trois enfants est parti sans même les reconnaître. Il n'y aurait jamais eu d'affaire. Mais voilà, le jeune voyou entendu en janvier 1972 par les policiers pour un vol à la roulotte dénonce la jeune fille, qui dira au juge d'instruction comme au président du tribunal « Que vouliez-vous que je fasse ?» Ce matin, lorsqu'elle est arrivée au tribunal avec sa mère et une amie, plusieurs centaines de militantes du mouvement de libération de la femme étaient déjà devant le tribunal, attendant sous une pluie battante afin de témoigner leur soutien à la jeune fille. Il y avait également des policiers et les manifestants déchaînés ont franchi le barrage. Mais tout s'est bien terminé puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la jeune fille a été relaxée tandis que sa mère était mise hors de cause.
Et alors, quelles conséquences aura ce procès, Sylvie Chaperon ?
Alors, cette conséquence, c'est que de plus en plus, l'opinion publique change vis-à-vis de l'interdiction de l'avortement. Et de plus en plus aussi, les militantes se radicalisent sur la question de l'avortement, puisque en 1973 va être fondée une association, le MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui va pratiquer des avortements. Au vu et au su de tout le monde. Hein, on explique, alors c'est plutôt dans la presse militante et syndicale que dans la grande presse, mais on explique qu'à telle date, à tel endroit, des avortements seront pratiqués et que les femmes peuvent s'inscrire. Donc c'est vraiment une désobéissance civile complète et au vu et au su de tout le monde. Enfin, la loi n'est plus respectée du tout. Et il y a le danger pour les pouvoirs publics que l'avortement soit démédicalisé. Et de fait, il est démédicalisé. Hein, c'est-à-dire que vous avez des militants qui ne sont ni sages-femmes, ni médecins, qui pratiquent des avortements.
Qu'est-ce que tu fais là, dans cette eau jaune ?
C'est de la moutarde.
Ça fait la peau douce, la moutarde ?
Non, c'est pas pour ça.
T'es enceinte ?
Bernard veut pas que je le garde.
C'est pas comme ça que tu vas t'en débarrasser de ton môme. Pas avec de la moutarde.
Donc, y a aussi ce danger-là. D'où, effectivement, Valérie Giscard d'Estaing qui rend compte que, bon, on ne peut plus continuer à préconiser l'interdiction de l'avortement, qu'il faut changer cette loi qui est de toute façon plus respectée, et d'où voilà, la mission qui est donnée à Simone Veil de faire voter la liberté de l'avortement en France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
Simone Veil, à l'Assemblée nationale, 1974.
C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin.
Est-ce qu'on peut redire à ce micro, Sylvie Chaperon, pourquoi c'est une date historique dans l'histoire du combat féministe ? Et il faut le redire, je crois, en 2023.
Oui, au moment où on parle de constitutionnaliser ce droit, au moment où on voit qu'il est très fragile, hein, y compris aux États-Unis, il faut rappeler cette date historique. C'est important parce que ça donne aux femmes la décision de maintenir ou pas leur grossesse. Et personne d'autre que les femmes. Il existait, par exemple, au Royaume-Uni, en Suisse, en Hollande, des possibilités d'avorter, mais c'était un avortement thérapeutique dévoyé ou qui avait été considérablement élargi. Mais la décision restait entre les mains des médecins ou des assistantes sociales ou d'une commission mixte qui allait décider oui, elle peut avorter, non, elle ne peut pas avorter. Là, c'est une loi qui donne le droit aux femmes d'avorter. Et à personne d'autre d'en juger. Et ça, c'est fondamental, ça change tout. C'est la réappropriation de son propre corps et de son corps fécond, puisque les accidents de contraception sont nombreux, sont inévitables, et qu'on peut avoir le droit d'y mettre un terme.
À partir d'aujourd'hui, les Françaises peuvent se faire avorter librement, en tout cas dans les 10 premières semaines de leur grossesse.
17 janvier. 1975.
La loi, votée le 28 novembre à l'Assemblée nationale et trois semaines après au Sénat, et qui vient de faire l'objet d'un examen du Conseil constitutionnel, a été publiée ce matin au Journal officiel.
En 1975, les femmes obtiennent le droit d'interrompre leur grossesse. Un long combat, commencé avec Madeleine Pelletier, pionnière du début du XXe siècle, et qui fut internée de force dans un asile où elle meurt en 1939, jusqu'à Simone de Beauvoir, modèle d'identification féminine pour les jeunes femmes des années 60. Certains intellectuels ont même écrit que le deuxième sexe est à l'origine de la deuxième vague.
Donc il y a une philosophe qui était féministe dans les années 70, qui a publié dans les années 80 les premières analyses philosophiques du deuxième sexe, et de Sartre aussi, hein, de l'être et le néant, Michel Ledeuf, qui avait cette expression très juste de dire que Simone de Beauvoir et le deuxième sexe, c'était le mouvement d'avant le mouvement. C'est-à-dire comment, par des lectures isolées, chacune, finalement, avait le même bagage culturel et la même dénonciation de leur propre vécu, de sorte que toutes ces lectures isolées, autour d'un même livre, donnent un « nous » collectif.
En conclusion de ce sixième épisode, ayez en tête que les écrits de Simone de Beauvoir dans les années 50 et 60 ont joué un rôle majeur dans une prise de conscience collective des combats féministes à mener. Avec les mémoires d'une jeune fille rangée, le « je », J-E, utilisé par Simone de Beauvoir, permet à chaque lectrice une appropriation de ce récit. C'est-à-dire qu'elles peuvent toutes dire « je », elles aussi. Et au final, l'addition de tous ces « je » accouche d'un « nous » collectif qui crée un mouvement, la deuxième vague. Par ailleurs, chose importante dans cette décennie 1970, n'oublions pas qu'en janvier 1968, Simone de Beauvoir a eu 60 ans, un âge qui commence à la tarauder.
En 68, on ne peut vivre, dit-elle, que quand on a l'espérance, l'espoir, qu'une période suivante permettra de reprendre et de comprendre la période qu'on vit.
Danielle Salnave, académicienne et biographe de Simone de Beauvoir.
Mais à 60 ans et quelques, c'est fini, puisque de toute façon on n'a plus d'avenir, c'est fini. L'avenir est mort, elle vivra jusqu'à 78 ans, c'est tout de même encore un assez long moment, mais entre-temps il y aura la mort de Sartre.
C'est donc une des principales figures de ce siècle qui vient de disparaître.
15 avril 1980.
Jean-Paul Sartre est mort vers 9h hier soir à l'hôpital Brousset à Paris, où il avait été admis il y a environ un mois pour un œdème du poumon.
Donc, quand elle dit sans arrêt qu'elle porte sa mort en elle, elle se réveille le matin avec ce sentiment de néant, Autant quand elle s'était installée dans son beau studio d'artiste face au cimetière, elle trouvait que c'était comme les rues d'un village avec des toits paisibles, etc. Maintenant, elle est face à la mort, qu'elle voit tous les matins de sa fenêtre dans le cimetière qui est en face de chez elle.
Comment Simone de Beauvoir a appréhendé la mort et quel regard a-t-elle porté sur la vieillesse ? C'est l'horizon du prochain épisode.
Qu'est-ce que la vieillesse ?
Ça, c'est une question à laquelle j'ai répondu en 600 pages. C'est assez difficile de vous le résumer en un mot.
Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Éric L'Ancien. Lecture, Julie Sicard, de la Comédie Française, et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Frédéric Martin et Aurore Juvenel. Chronologie des faits, Sylvie Lebon de Beauvoir, aux éditions Gallimard. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Prochain épisode, la cérémonie des adieux. Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie, est un podcast original de France Inter.